Bonjour à tous, je suis Fatima et bienvenue sur Inspirons le féminin, anciennement New Woman Boss, le podcast des femmes entrepreneurs de tout horizon. Dans cet épisode, on va parler de connexion avec ses émotions, comment rester alignée avec ses valeurs et se révéler à soi-même. C'est l'expérience qu'a vécue Edmé Denal. Fondatrice et executive coach, elle a créé son cabinet Sinelli qui propose un accompagnement holistique. Edmé a emprunté différents chemins avant de s'apercevoir que ses valeurs n'étaient pas alignées avec celles de sa vie de salariée, un déclic qui l'a amenée à se trouver elle-même et à se révéler.
Et que les gens qui arrivaient, ben, ils arrivent avec tout. Ils arrivent avec leur passé, ils arrivent avec leurs déboires amoureux, ils arrivent avec leurs blessures émotionnelles, et je peux pas leur dire « ça n'a rien à voir avec ta carrière ». Je me suis aperçue que dans ma vie, je pouvais faire beaucoup de choses très bien, mais est-ce que je pouvais les faire avec joie? Est-ce que je pouvais les faire avec passion? Est-ce que ça avait du sens? J'aurais pu rester fiscaliste, j'aurais pu monter mon cabinet, j'aurais très bien fait. Est-ce que ça m'aurait rendue heureuse? Non.
On parle d'affirmation d'identité pour mieux s'épanouir dans sa carrière, d'un monde en transition et d'un marché du travail qui évolue. Trouver du sens dans sa vie, c'est maintenant et c'est avec Edmé Denal. Belle écoute. Alors bonjour Edmé.
Bonjour Fatima.
Alors Edmé, tu es coach et tu accompagnes les entrepreneurs salariés et les salariés qui souhaitent retrouver du sens dans leur travail au quotidien.
Oui.
Et tu as une approche holistique dont on va parler au cours de cette interview. Déjà, merci d'avoir accepté cette interview. Et avant de démarrer, j'aimerais bien que tu te présentes pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore.
Ok, bah déjà merci de me recevoir. Je suis honorée de faire partie de ce nouvel épisode et de faire partie de toutes les femmes inspirantes que tu as interviewées. Si je devais me décrire et décrire ce que je suis, et non pas ce que je fais, je dirais que je suis une amoureuse de la liberté. Et c'est ça qui m'a amenée à créer mon entreprise et à vouloir accompagner les autres. Voilà. Et que j'ai la volonté de faire les ponts entre peut-être différents mondes et accompagner les gens au niveau professionnel à faire le pont entre différents mondes.
D'accord.
Voilà.
C'est une belle mission.
C'est ce que je ressens.
C'est ça. Mm. Justement, on va parler de sens et de ce qu'on ressent au travail. Mais avant d'être coach, tu étais juriste, donc il n'y avait rien à voir. Et tu as accompagné pendant 7 ans des équipes dans le domaine du luxe et du retail. Alors pourquoi ce changement de carrière en cours de route?
Alors j'ai changé plusieurs fois de carrière.
Oui.
Là, tu as fait un mix entre ce que j'ai fait auparavant. J'étais juriste fiscaliste de formation. Donc j'ai fait la Sorbonne, Paris 1, Master droit des affaires, droit fiscal. Mmh. Après j'ai travaillé 2 ans en cabinet où j'ai fait du conseil en fiscalité personnelle. Donc je conseillais des personnes pour payer moins d'impôts, contentieux fiscal. Et là, la quête de sens a commencé où je me suis dit, j'ai commencé le droit pour faire du droit pénal parce que j'avais envie d'aider les gens. Mmh. Et je me retrouve à faire du droit fiscal et du droit des affaires. Où j'aide des gens qui ont beaucoup d'argent à avoir encore plus d'argent.
Ah oui.
Quel est le sens dans tout ça? J'avais envie d'un rapport plus humain. Et donc là, sans trop savoir ce que j'allais faire, je me suis dit, je vais devenir manager. J'ai eu des opportunités. Et j'ai commencé à aller travailler dans la grande distribution, dans le luxe, où j'ai très très vite évolué, même si je n'avais pas de formation en management. Et pendant 7 ans, j'ai accompagné des managers en faisant du management, du recrutement, de la gestion de budget. Et voilà comment je me suis retrouvée après coach.
D'accord. Mais concrètement, comment tu es arrivée au coaching?
Alors, au coaching, déjà, dans mon métier de manager, au quotidien, j'accompagnais les équipes. Donc, je faisais du recrutement, de la gestion de carrière. J'ai des gens à développer leurs talents. Et de plus en plus, j'avais des rôles qui étaient, on va dire, moins sur le terrain et plus politique et d'accompagnement. Et après, je me suis retrouvée en dissonance cognitive avec les groupes auxquels j'appartenais. Parce que quand on est salarié, on représente aussi une société.
Oui.
Et on peut avoir ses convictions personnelles, mais on doit suivre la société, la politique de la société pour laquelle on travaille. Et je me suis retrouvée en décalage, où moi, j'avais envie vraiment d'œuvrer pour les salariés, mais je ne pouvais pas vraiment le faire dans les faits. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Ben, j'ai toujours envie d'accompagner ces hommes qui sont là au quotidien, mais le faire différemment, sans être prise par ces politiques de société. Et il y a eu un moment charnière où j'étais en formation, je travaillais dans le luxe, et j'ai rencontré un coach qui avait mon âge à Londres. Donc on fait la formation, il nous a appris du speed coaching, comment coacher son équipe très rapidement. Et je lui demande, mais qu'est-ce que tu faisais avant ? Et il me dit, bah, j'étais comme toi, j'étais manager, et puis j'ai décidé de monter ma structure et d'accompagner en externe. Et je me suis dit, waouh, mais c'est ça que je veux faire en fait.
D'accord.
J'ai pas envie d'abandonner entre guillemets ce que je fais au quotidien, mais j'ai envie de me concentrer uniquement sur la partie humaine. Parce qu'il y avait une partie de mon métier qui était la gestion des budgets, une partie RH, licenciement, disciplinaire, politique aussi avec des prestataires. Et cette partie, elle m'intéressait de moins en moins. Je sentais que c'était utile, je savais le faire, mais j'avais pas envie de faire ça.
Ouais, j'avais pas l'envie de faire ces tâches-là, qui correspondaient pas à ton envie, quoi.
Non, et puis on va pas se mentir, au quotidien, licencier des gens, faire du disciplinaire, faire de la paye, faire de la politique au niveau des entreprises, mais il y a des gens qui prennent plaisir à ça, mais pas moi en fait.
D'accord.
Et je l'ai senti, c'est un truc que j'ai senti. Et je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où je devais choisir entre mes valeurs et être loyale à mon employeur. Et au bout d'un moment, ça passe plus.
Ouais, je comprends très bien, je vois très bien ce que tu veux dire. D'ailleurs, tu l'écris très bien dans le site, tu écris dans ta bio que la naissance de Cinelli est apparue comme une évidence sur le chemin de ma quête de sens. Emprisonnée pendant des années dans mon mental, j'ai souvent privilégié le pragmatisme et le statut social au choix de cœur, par peur de perdre ou de manquer. Donc du coup, l'élément déclencheur, c'était un peu cette formation, j'imagine, qui t'a pris, en fait, où t'as pris un peu conscience que tu ne voulais plus rester emprisonnée dans des choix, on va dire, de raison.
Pas vraiment. Là, c'est ce que tu lis là, c'est le constat de ce que je suis maintenant. Mais quand j'étais dans le process,
t'étais pas encore arrivée à ce niveau-là.
Non,
c'est ça.
Non. J'avais pas l'impression d'être emprisonnée dans mon mental. Je sentais que quelque chose n'allait pas.
Ouais.
Mais je peux pas te. Ça serait pas vrai de te dire que j'avais cette conscience-là en fait. Le déclencheur, ça a été mon fils. Un jour, je suis arrivée chez moi et j'avais manqué son coucher la veille. Le matin, je suis partie avant qu'il se réveille et du coup, je l'ai vu 2 jours après. Pour lui, en fait.
Ouais.
Éveillé. Et quand j'ai voulu lui faire un bisou, il a tourné la tête.
Ah.
Et là, ça a été, tu vois, je t'en parle encore, je suis émue. Ça a été vraiment un élément qui m'a, m'a pris au cœur.
C'est un enfant, ouais, forcément.
Ouais, ouais.
C'est...
Ça m'a pris au cœur.
Ouais.
Et en fait, j'étais tellement pas connectée à mes émotions que ça a été très brutal. Et c'est ce qui m'a reconnectée, en fait. Et tu vois, aujourd'hui, je t'en parle, je suis toujours émue. Mais c'est une énergie, en fait, qui m'a portée aujourd'hui à créer mon entreprise, à accompagner les gens, à être responsable et à avoir un cadre de travail qui est écologique pour moi.
Oui, dans lequel tu te sens bien, quoi. Tu
dans
sais
lequel
qu'il y a
je
un
me sens
sens
bien.
Et,
exactement.
Tu ne sacrifies pas ta personne.
Je ne sacrifie pas ma personne, je ne sacrifie pas mes valeurs et j'accompagne aussi les gens à trouver leur propre équilibre. Parce que mon équilibre, ce n'est pas le tien et ce n'est pas celui des autres.
Exactement.
Et l'important, c'est ça, c'est. Comment je fais pour exploiter mes talents, pour me mettre au service aussi des autres, dans un métier qui peut prendre différentes formes, mais pour respecter qui je suis, au plus profond de moi.
Oui, je vois très bien. Et à quel moment, du coup, tu décides de te lancer
Du coup, il y a eu cet événement-là. Il y a eu
cet événement-là
où je me dis, waouh.
Qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait se reconnecter aux émotions.
Qu'il fallait que je me connecte à mes émotions. Et puis là, je me suis demandé, mais quelle personne j'ai envie d'être ? Quel être humain j'ai envie d'être ? Du coup, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'abandonner ce côté j'accompagne les autres. Qu'est-ce que je pourrais faire pour accompagner les autres en entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, à travailler sur cette question du sens, à retrouver un équilibre ? Et le coaching est apparu comme une évidence. Donc ça a mis plusieurs mois entre le moment... l'épisode avec mon fils et la création de ma société, il y a eu peut-être 1 an et demi.
Oui.
Entre le moment où j'ai postulé, il y a dû avoir, je pense, 8 mois. Où je me suis inscrite à la formation, j'ai mis les choses en œuvre, etc.
T'as suivi une formation, oui, pour justement devenir coach.
Oui, j'ai suivi une formation à HEC. Donc après l'événement avec mon fils, j'ai postulé. Et puis après, j'ai signé une rupture conventionnelle avec mon employeur pour préparer mon départ, être dans des bonnes conditions, me permettre d'être formée. parce que j'avais une réalité financière aussi,
oui.
où j'avais investi dans l'immobilier et je ne pouvais pas tout quitter comme ça d'un jour à l'autre, en fait.
Oui, il fallait la période de transition, en fait, pour pouvoir lancer ton entreprise, effectivement. Donc,
exactement.
C'est important.
Et ça, c'était quasiment un an avant, l'année avant Covid, en fait.
Juste avant Covid,
an
avant.
Oui, un an avant.
Ok. Ouais.
J'ai fini ma formation, quelques mois après, il y avait le Covid.
D'accord.
Quand j'ai vraiment commencé mon activité.
Très bien. Et du coup, donc tu lances Cinelli. Que signifie Cinelli, le nom ?
Cinelli, il y a deux références, en fait. Il y a Eli, qui veut dire Dieu en hébreu, et qui est le début du prénom de mon fils, qui s'appelle Elijah. Donc c'est une référence à ça. Et Sin, qui est une référence au mont Sinaï, en fait, où il y a eu la révélation des 12 commandements.
D'accord.
Voilà.
Donc c'est pas un nom choisi au hasard.
Non, c'est pas un nom choisi au hasard. L'idée, c'est vraiment se révéler à soi-même, en fait, une quête de sens qui permet de découvrir ce qui est important pour soi et surtout de se connecter à quelque chose de plus grand.
Mmh. Oui.
Quel que soit ce qu'on met derrière quelque chose de plus grand. Ça nous appartient. Ça peut être la nature, ça peut être Dieu, ça peut être la source, voilà.
Mais oui, chacun a sa connexion, quoi.
Chacun a sa connexion.
Et justement, quand tu te lances, en plus en plein Covid, comment tu accompagnes donc tes premiers clients, c'est qui ? Et est-ce que pendant le Covid, justement, j'imagine qu'en plus c'était une période assez difficile et que c'est une période aussi où les gens sont beaucoup posé des questions sur le sens de leur travail, de ce qu'ils font au quotidien. Donc j'imagine que tu as eu beaucoup de retours là-dessus.
Alors déjà, il y a eu plusieurs étapes. J'ai commencé mon activité, je n'avais pas encore créé ma société. Mes premiers clients, c'était à la fois des particuliers, des cadres et des sociétés. Directement, j'ai commencé comme ça, sans structure. Je me suis lancée, je me suis dit, bon, on va voir ce qui se passe. Et il n'y avait pas du tout cette dimension spirituelle. Quand le Covid est arrivé, il y a eu le confinement. Là, je me suis dit, waouh, il faut que je continue à lancer mon activité. J'ai fini mes formations. Et donc, je faisais un accompagnement qui était plus corporate. J'accompagnais sur la reconversion professionnelle, les entrepreneurs. Il y avait un peu de sens, mais il n'y avait pas ce côté très spirituel et holisme où j'affirmais aux personnes qui venaient me voir qu'on allait travailler à la fois sur le niveau perso, pro, émotionnel, intuitif, etc. Et puis au fil de mes accompagnements, bien sûr, il y a le Covid, tout le monde s'est posé des questions. Il y a des gens qui m'ont dit, qui m'ont en retour, mais il y a une dimension quand même spirituelle dans ton accompagnement. Mais que moi, j'affichais pas du tout, mon site n'était pas comme ça. Je me suis dit, une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, sur une période de peut-être 3 mois, jusqu'au moment où il y a une personne, un institutionnel qui vient me voir, un homme, et qui me dit, j'aimerais que tu m'accompagnes au niveau spirituel. Bon, alors là, moi, je suis tombée de ma chaise, je me dis, je vois pas, en fait, pourquoi il vient me voir pour ça. Et puis après, je me suis posée, je me suis recentrée, et je me suis dit, ça doit être ce que je dégage, et ça doit être ce qui ressort de mon accompagnement. Et peut-être que là, la vie m'invite à me repositionner.
D'accord.
Et à affirmer mon identité. Et donc, c'est là que j'ai commencé à affirmer ça.
D'accord. Et c'est là, du coup, que tu as apporté dans ton coaching cette dimension holistique.
Cette dimension holistique, où je me suis dit, mais en fait, c'est au fur et à mesure de mes clients, je me suis aperçue qu'on ne peut pas juste prendre en compte la carrière, qui a une dimension qui est émotionnelle, qui a une dimension qui est intuitive, qui a d'autres dimensions auxquelles on se rattache et qui vont avoir un impact, en fait, sur notre carrière, sur notre ambition. Et que les gens qui arrivaient, ils arrivent avec tout. Ils arrivent avec leur passé, ils arrivent avec leur déboire amoureux, ils arrivent avec leurs blessures émotionnelles, et je ne peux pas leur dire, ça n'a rien à voir avec ta carrière.
Oui, non, tout est connecté, oui.
Et moi-même, j'ai fait cette expérience.
Oui.
J'ai fait cette expérience où j'étais très dans le mental, très dans le talent. Je me suis aperçue que dans ma vie, je pouvais faire beaucoup de choses très bien, mais est-ce que je pouvais les faire avec joie ? Est-ce que je pouvais les faire avec passion ? Est-ce que ça avait du sens ? J'aurais pu rester fiscaliste ? J'aurais pu monter mon cabinet ? J'aurais très bien fait. Est-ce que ça m'aurait rendue heureuse ? Non. Et c'est là où je me suis dit, si je me suis offert ça, pourquoi je ne l'offre pas à mes clients ?
D'accord, oui. Pourquoi ne pas leur donner aussi cette approche que tu as découverte à travers ton propre chemin?
Exactement.
Et le partager avec les autres?
Oui.
Et c'est ce que tu appelles du coup l'approche holistique. C'est vraiment toute la dimension, on va dire, humaine, pas seulement très mentale, carré, professionnelle, mais aller oui. au-delà parce que tout est connecté ensemble.
Bah, on va travailler à la fois sur les émotions et sur la dimension aussi intuitive quand on est chef d'entreprise. Et qu'on évolue dans des sphères qui sont, on va dire, très intellectuelles, très pragmatiques. Si je fais de la banque, de la finance, etc., je vais me baser sur des chiffres. Mais il y a un moment, mon intuition peut me donner des informations que ne me donnent pas les chiffres. Je peux rencontrer un client ou je peux travailler sur un projet où tout est carré. Ça coche toutes les cases. Mais quand je suis en face de la personne et quand je parle du projet, je sens que quelque chose ne va pas. Et là, c'est mon intuition, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de sensible qui me dit... Il y a quelque chose qui ne va pas, signe pas. Et dans les personnes que j'accompagne, je les accompagne aussi à se reconnecter à ça, à cette partie qui est sensible, à cette partie qui est intuitive, à cette partie qui fait partie de nos émotions, de notre corps, qui est un GPS interne et qui va nous donner des informations que ne capte pas encore l'intellect.
Oui. Mais est-ce que tout le monde, justement, est sensible à ça? Est-ce que tout le monde peut faire cette approche holistique ou il y en a qui sont complètement hermétiques?
Alors, est-ce que tout le monde est sensible à ça? J'ai envie de te dire oui, parce que tu le veuilles ou non, ça t'impacte. Les vibrations d'un lieu, de personnes, etc., ça t'impacte. Après, est-ce que tout le monde a envie de le faire? Non.
Non, c'est ça.
Est-ce que tout le monde est prêt à le faire? Non. Ça dépend de ton degré de conscience, ça dépend de ton chemin personnel, ça dépend de ce qu'est venu expérimenter ton âme, et ça dépend de chacun.
Oui, ça dépend de chacun. Et justement, dans les personnes que tu accompagnes, pourquoi ils viennent te voir? Est-ce que c'est justement pour retrouver du sens beaucoup plus dans leur quotidien professionnel? Est-ce qu'ils s'ennuient? Est-ce qu'ils ne savent pas
retrouver
par
du
où
sens.
Commencer?
Il y a peu de personnes qui s'ennuient, mais il y a des personnes qui ne trouvent plus de sens à leur activité. Souvent, ce sont des personnes qui ont une culture de la haute performance, qui ont de belles carrières, qui évoluent aussi dans des sphères et des activités qui sont très mentales, très intellectuelles. Donc, finance, banque, assurance... cabinet d'avocat, voilà, ce genre de choses, pour les gens qui sont salariés et qui ont une extra-sensibilité qu'ils ne peuvent pas exprimer. Soit ils ont une très forte intuition, soit ils ont une très forte créativité, mais leur activité est tellement normée qu'il n'y a pas de place à ça. Et le capitalisme est ce qu'il est, qu'il y a des réalités qui sont financières, il y a des objectifs qui sont accrus depuis la pandémie mondiale. Et ça a exacerbé, en fait, ce culte de la performance, où les gens sont enfermés, où ils ont peut-être de moins en moins de temps pour ce qui compte pour eux. Mmh. Et ça les a amenés à se poser des questions. Oui, je suis bon dans ça. Est-ce que j'ai envie de le faire? Non. Mmh. Et donc, à partir de là, je fais quoi?
Ils se rendent compte que, en fait, leur quotidien ne leur laisse pas place à leur liberté créative ou à leur liberté de ressentir vraiment ce qu'ils ont envie de faire, en fait.
Liberté
au
d'être aussi.
D'être,
oui. D'être, il y a, dans les personnes qui viennent me voir, il y a une bonne partie qui me dit « Moi, je suis quelqu'un au travail et je suis quelqu'un quand je sors du travail. Je suis une autre personne.
Oui. »
Et en fait, j'ai envie de réunir ça.
Mmh. Oui.
Et puis, il y a aussi ce problème de la dissonance cognitive, où je me rends compte que mes valeurs ne sont pas alignées avec celles de l'entreprise avec laquelle je travaille. Et puis, on peut faire des concessions un temps, ça a été mon histoire, jusqu'au moment où, non, c'est plus possible.
Oui, ils arrivent à bout parfois.
C'est
souvent.
Hein. C'est pas parfois, c'est 98% des gens qui viennent, ils viennent me voir parce qu'ils sont à bout et ils sont épuisés. Parce qu'ils sont perdus et ils n'arrivent plus à trouver cet équilibre entre qui ils sont au travail, qui sont à la maison, l'investissement aussi qu'ils ont mis dans leur carrière et leur vie personnelle.
Comment justement tu les accompagnes? Parce que tu dis comme sur ton site, aligner, l'idée c'est d'aligner son être et son savoir-faire.
Oui, alors par une méthode qui s'appelle CVA, donc conscience, vision, alignement, donc c'est en 3 temps, c'est un accompagnement sur 3 mois. La première chose, ça va être la conscience. Conscience, c'est à la fois la connaissance, on va dire, intellectuelle aussi de ses talents, puis après vraiment la conscience de soi. De quoi j'ai peur? Comment je me comporte quand je suis sous stress? Dans quelles croyances limitantes je suis enfermée? Quels sont les scénarios d'échec ou d'auto-sabotage dans lesquels je suis enfermée? Et puis la conscience de mon être, en fait, c'est quoi mon essence?
Oui.
Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, la vision, c'est... vers où j'ai envie d'aller, mais là, au-delà de ma carrière, c'est vraiment comment j'ai envie de contribuer au monde. parce que ça peut prendre différentes formes. Et le souci aujourd'hui, c'est que les gens cherchent une cohérence dans la forme et pas dans le fond.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils disent « Ah, mais cette personne, elle a différentes carrières, elle est incohérente. » Non, en fait, elle a la même mission, mais qui peut se traduire différemment. Je te donne un exemple concret. Moi, je te dis, ce que je ressens, comment j'ai envie de contribuer, c'est de faire le pont entre deux mondes. Je peux être coach pour ça. Oui. Je peux être, si je suis dans un domaine qui est plus ésotérique, spirituel, je peux être chaman. Je fais le pont entre deux mondes. Mmh. Si je suis dans le commerce international, je peux être chef de projet à l'international. Je fais le pont entre deux cultures, deux pays.
Ouais.
Si je suis chef, je peux faire une cuisine fusion là, qui est très à la mode entre moi, le japonais et le français. Si je suis peintre, je peux avoir des influences de deux pays différents. Et tu vois bien que la forme est différente, mais la mission est la même, c'est faire le pont entre deux mondes, entre deux cultures.
Oui, je vois. Ouais. Donc c'est vraiment c'est vraiment le pont, enfin la connexion entre soi, ce qu'on a vraiment envie et notre mental, quoi.
Donc,
le raccrocher ensemble.
Donc, tu travailles ta grande vision pour savoir comment tu veux contribuer, qu'est-ce que tu veux apporter au monde au-delà de ton métier. Parce que ton métier, c'est juste une expression. Et puis après, la troisième phase, c'est l'alignement. Comment concrètement, je prends des décisions en fonction de mon fonctionnement, qui je suis, mes talents, et en fonction de ma vision. Donc, trois temps. Je me connais, je détermine comment je veux contribuer, qu'est-ce que je veux apporter au monde. Et puis après, je prends des décisions qui sont concrètes, plus pragmatique pour savoir comment je mets en œuvre cet alignement.
D'accord. Et du coup, est-ce que tu accompagnes justement donc, ces cadres, ces managers, ils viennent à toi individuellement ou est-ce que c'est les entreprises en général ?
Alors, j'ai plusieurs activités. L'activité de reconversion et d'accompagnement de cadres, en fait, ce sont les cadres qui viennent me voir à titre individuel.
Oui.
Et après, j'ai une autre activité où j'accompagne les managers en entreprise plus en coaching. Et là, c'est du coaching d'influence, le leadership, comment mieux communiquer avec les équipes, comment être un manager conscient, en fait, sur le leadership qui est humaniste, conscient. Voilà, c'est vraiment deux activités différentes. Et en entreprise, je fais de la formation, de la prévention aussi sur les risques psychosociaux, et j'accompagne, en fait, sur toute la dimension management et RH. Voilà. Et là, c'est des entreprises qui viennent me chercher.
Des entreprises qui viennent te chercher, parce que j'imagine qu'ils ont... vu que c'était quelque chose de très important, que c'était devenu indispensable maintenant de travailler justement là-dessus. Et d'ailleurs, tu choisis, c'est un article, peut-être que c'est toi qui l'avais écrit, je pense, mais dans lequel tu disais qu'il y a des études qui ont montré qu'une intelligence émotionnelle bien développée, quatre fois plus puissante qu'un QI très élevé pour réussir un rôle managérial.
Oui.
Et ça nécessite la capacité de résilience, d'organisation pour remettre l'humain au centre de l'entreprise. Est-ce que justement, ces entreprises qui viennent te voir, ils ont conscience de ça, que c'est important de remettre l'humain au centre?
Oui, on va dire à 90% oui. Les entreprises qui veulent travailler avec moi, vu que je suis assez en tout cas claire sur mon positionnement, c'est des entreprises qui ont envie de mettre des choses en place, d'offrir un cadre plus respectueux, plus écologique pour leurs salariés, qui veulent aussi développer leur leadership conscient, c'est-à-dire comment mieux communiquer avec mon équipe, comment être au service de mon équipe, comment faire baisser le stress aussi de mes collaborateurs, faire en sorte qu'ils se sentent bien et dans des bonnes conditions de travail. Ils ont envie, mais ils ne savent pas comment faire.
D'accord.
Donc, 90% ils sont conscients. Il y a 10% qui restent, on va dire, en apparence.
D'accord.
Et donc tout mon travail et tout mon challenge, j'ai envie de dire, c'est de me repositionner par rapport à ça et de faire la différence entre les 90-10, les personnes qui viennent me chercher pour faire de la politique. Et il y en a encore.
Oui, il y en a encore.
Il y en a encore. Ouais.
Puis j'imagine qu'entre le moment, il y a 7 ans et aujourd'hui, ça a bien évolué aussi. Donc il y a de plus en plus cette prise de conscience.
Oui, globalement, on va vers du positif. On est dans un monde de transition où l'ancien système ne fonctionne plus. Le leadership traditionnel qui est très descendant, très autocratique, très dirigiste, très terroriste, ça ne fonctionne plus et encore moins après le Covid. Donc on sent que les gens ont besoin d'être engagés. Et en plus, il y a la nouvelle génération qui arrive, de personnes qui sortent des écoles là, qui ont 25 ans. Eux, ils travaillent avec du sens.
Exactement, oui.
Ils n'ont pas le temps que moi j'ai eu à se poser des questions. Bon, je vais attendre peut-être de faire 3, 4 ans, 5 ans. Non. Et encore moins ceux de nos parents qui restaient 20 ans dans une entreprise.
Ouais.
Eux, c'est une génération qui ils sont vraiment engagés dans l'écologie, dans le sens, dans...
Oui, la mentalité n'est pas du tout la même. Donc, s'il n'y a pas de sens, ils ne sont pas forcément attirés par les grands groupes, ils sont juste attirés par le sens de ce qu'ils peuvent donner dans leur quotidien.
Exactement, et puis ils sont plus dans un rapport qui est gagnant-gagnant. C'est ouais. Oui, moi j'offre ma force de travail et mes talents à une entreprise, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ?
Oui.
Alors que nous, on était un peu dans une dynamique qui était... je suis diplômée, j'ai des compétences, j'offre quelque chose à l'entreprise, mais c'est déjà un honneur si elle me donne un poste.
Oui, c'est ça. C'est pas du tout dans cette dynamique. Hein. On voit que ça a bien évolué. Mais tant mieux, ça évolue dans le bon sens. Parce que...
Ça évolue dans le bon sens. Et justement, cette génération se pose beaucoup plus la question de travailler dans la joie. Moi, c'est un peu mon slogan, travailler dans la joie. Eux, c'est vraiment leur être, leur état d'être. Est-ce que je suis dans la joie ou pas ? Non, je ne suis pas dans la joie. Je peux démissionner et partir à ma pause déjeuner sans aucun problème.
Ouais. Ils n'ont pas du tout la même mentalité, mindset qu'on avait à l'époque où non, je ne peux pas partir. J'ai besoin de gagner ma vie et même si ça ne me convient pas, je reste. Oui, ouais, c'est sûr.
Exactement. Ouais. Et du coup, les entreprises commencent à prendre conscience de ce shift parce que les baby boomers sont en train de partir des entreprises. Ouais. La génération d'après aussi, nous, on est en pleine quête de sens, reconversion, etc. Donc, les entreprises perdent leurs talents. Ouais. Et là, elles se posent la question de comment je retiens mes talents parce que aussi, je ne peux pas avoir que des nouveaux salariés entreprise.
Oui, il faut qu'ils les accompagnent, qu'il y ait un accompagnement là-dessus pour pouvoir les garder. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de travailler, c'est de retrouver du sens. D'ailleurs, avec toutes les personnes que j'interviewe, la majorité ont quitté leur job pour retrouver du sens. Elles font du sens qu'elles retrouvent dans leur quotidien d'entrepreneur, on va dire.
Et au-delà de ça, au-delà de la question du sens, pour une entreprise, il y a aussi un coût financier. Ouais. Parce que, quand je forme quelqu'un et qu'au bout de 2 ans, le talent part alors que j'ai investi du coaching, de la formation, ça me coûte cher. Et puis après, quand il y a de la maladie au travail, de la souffrance au travail, qu'est-ce que ça crée ? Des arrêts maladie, des burn-out, la personne, elle fait encore partie de la société. Et pendant 1 an, c'est pas une force de travail. Donc il y a une réalité qui est financière aussi pour les entreprises. Donc au-delà de juste les conditions de travail et le bien-être des employés, il y a aussi une réalité qui est financière.
Tout à fait, ouais. Financière. Et puis si les gens ne sont pas motivés à travailler, donc c'est pas bon non plus pour le groupe, pour tous les autres, en fait. Ouais. Parce que si tout le monde est motivé, ça crée une motivation de groupe qui n'est pas pareille, quoi.
Exactement.
Concrètement, justement, pour avoir un bon mindset quand on est entrepreneur ou manager, sur quoi il faut travailler
Alors, manager et entrepreneur, déjà, ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai envie de te dire...
Quand on est entrepreneur, d'abord.
Entrepreneur, je dirais que la première chose à travailler, c'est se connaître. Avant de travailler sur son business plan, sur ce que je veux faire, sur la société que je veux monter, c'est moi. Qui suis-je avant de savoir ce que je veux faire ? C'est quoi mes peurs ? C'est quoi mon histoire ? Comment mon histoire fait sens aujourd'hui ? Et après, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à travers qui je suis et à travers mon histoire ? Mais c'est d'abord rentrer à l'intérieur de soi pour aller vers l'extérieur. Et la plupart des personnes font le contraire. En tout cas, des entrepreneurs que je rencontre font le contraire. C'est-à-dire qu'ils se concentrent sur leur projet et après, ils se demandent qui ils sont.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des entrepreneurs qui sont connus, qui ont monté des choses, qui après, ils se posent la question du sens, en fait.
Ils se posent la question du sens
qui arrive après, en fait.
Et le risque, quand on se connaît mal, c'est de ne pas savoir quelles sont nos forces et ce qu'on doit travailler aussi. Et ça peut nous amener à des dérives qui est qu'on se surinvestit, en fait, dans des choses sur lesquelles on ne devrait pas passer de temps. Parce que si je me connais très bien, je sais ce qui me met en joie, je sais ce qui me prend de l'énergie. Ce qui me prend de l'énergie, je le délègue.
Oui.
Pour me concentrer sur ma zone d'excellence, sur ce qui me procure de la joie, de l'énergie. Et ça, c'est un vrai environnement qui permet d'être créatif et qui permet de développer sa société et aussi qui permet d'attirer des clients et de faire du chiffre d'affaires.
Oui, bah ouais, tout à fait. Ouais. Justement, toi, tes clients, tu vas les chercher comment
Alors moi, je ne vais pas les chercher, ils viennent à moi. 60% de ma clientèle, c'est des recommandations.
D'accord, c'est du bouche à oreille.
Oui, c'est du bouche à oreille, c'est-à-dire c'est des personnes que j'ai accompagnées. Elles retournent chez elles retournent travailler. Puis on dit, mais il y a quelque chose de différent, mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait un accompagnement de 3 mois, j'ai fait ça, etc. Et puis voilà, donc ça, c'est vraiment la première source mon client. Et puis après, il y a ma communication Instagram et LinkedIn.
D'accord.
Voilà. Les articles que je peux écrire, les projets auxquels je peux participer. Voilà. Mais la première source, c'est vraiment la recommandation.
Oui, mais c'est vrai que quand le coach, c'est vraiment ça, quoi. C'est du conseil, c'est du bouche à oreille, quoi. Si on est satisfait, on le dit partout. Mmh. Donc,
Et après, pour les entreprises, c'est vraiment LinkedIn, des articles que j'ai pu écrire sur LinkedIn. Il y a des entreprises qui m'ont contacté sur ça. J'avais écrit des articles sur le management, l'importance de former le management intermédiaire et que c'est vraiment une pierre angulaire en fait de l'entreprise parce qu'il a un contact direct avec les équipes, donc il peut détruire un climat social comme il peut il peut diffuser une énergie incroyable. Mmh. Et des articles aussi que j'avais écrits sur le leadership. Mmh. Voilà, donc après il y a des gens qui me contactent, qui like pas, que j'ai jamais vu, qui me disent ah Edmé, on aimerait bien travailler avec toi. Voilà.
D'accord.
Et ouais. ça fait le lien en fait avec la question que tu me posais. C'est que quand on est entrepreneur, le seul souci qu'on doit avoir, c'est être. C'est pas faire. Mmh. Parce que quand je suis ce que je suis, bah finalement, les gens me contactent.
Oui.
Et ça fait lien avec le deuxième point aussi, c'est que moins on porte de masques en tant qu'entrepreneur, quelle que soit notre activité, plus on attire des clients qui nous ressemblent. Plus on porte des masques, c'est-à-dire un masque, je vais correspondre à l'image que je pense que les gens attendent de moi, plus je vais avoir des clients qui correspondent à mon masque. Et du coup, ça va être très fastidieux au quotidien.
On va attirer des personnes qu'on n'a pas vraiment, avec qui on n'a pas envie de travailler.
Exactement. Donc, ça peut être pareil, par exemple, pour ton podcast. Mm. Si tu n'es pas vraiment aligné avec le sujet de ton podcast, que tu dis, l'ambition féminine ou l'entrepreneuriat féminin, c'est un truc qui est à la mode, je vais le faire, mais qu'en fait, ça ne te passionne pas. Ouais. Du coup, tu vas attirer des gens qui sont en plein dans le sujet. Mais toi, pendant les interviews, tu vas être là, oh, c'est fastidieux. Ouais. Et c'est pareil pour un entrepreneur, c'est pareil pour une entreprise. C'est plus tu t'alignes, plus tu as une vibration qui attire.
C'est vraiment d'être aligné avec soi.
Ouais, qui attire tes clients de cœur. D'où le « qui suis-je » avant de commencer à développer ton
c'est
activité.
C'est ça, c'est la grande question. Ouais. Ouais, l'étape qu'on passe beaucoup, en fait, alors qu'il faudrait s'y poser, en fait. Et justement, est-ce que tu accompagnes beaucoup de femmes? Est-ce que c'est plus des femmes qui viennent à toi ou des hommes juste pour...
Ah, c'est marrant. Ouais. Alors, à titre individuel, c'est plus des femmes qui viennent me voir. Et en fait, en entreprise, j'accompagne plus des hommes. Des hommes, des codires. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi.
Et les femmes viennent à toi, donc en individuel.
Ouais, en individuel, c'est plus des femmes. Il y a des hommes, mais c'est plus des femmes. En individuel, il y a 90% de femmes, 10% d'hommes.
D'accord.
Et les profils hommes qui viennent me voir, ingénieurs, entrepreneurs. C'est souvent des ingénieurs slasheurs.
D'accord.
Voilà. Okay. Donc des profils très dans le mental, mais quand même avec une certaine spiritualité. Voilà. Et ils ont envie de développer différentes activités. Mais c'est souvent le même profil des hommes. Ouais.
C'est le même profil souvent. Mm. D'accord. C'est intéressant ça. Mm. Et justement, est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'intuition quand tu accompagnes entre les femmes et les hommes ou pas?
Alors, je ne dirais pas qu'il y a une différence au niveau de l'intuition, je dirais qu'il y a une différence au niveau émotionnel. Il y a peut-être plus de pudeur chez les hommes liée à les injonctions sociétales, culturelles, qui font qu'un homme est censé moins montrer ses émotions et peut-être que ça peut être assimilé à de la faiblesse. Donc, il y a plus un travail de dépouillement à faire avec les profils
hommes
qui viennent me voir. Voilà.
Ouais.
Pour gagner la confiance et pour mettre un cadre de sécurité qui permet aussi à la personne d'exprimer ses émotions et de voir aussi que ça fait du bien d'exprimer ses émotions et qu'elle a tout avantage à se reconnecter à ses émotions et à son corps. Alors que les femmes, elles sont déjà naturellement plus connectées à ça. Là, je fais vraiment des généralités. Mais
on a un petit peu
et
plus.
Et les grandes tendances, c'est ça dans les personnes que je vois. Mm. Bien qu'il y a des femmes qui sont aussi très emprisonnées dans le mental, mais...
Oui.
Il y a cette capacité, il y a moins quand même d'injonctions. On ne va pas se mentir.
Oui, c'est sûr. On est
une
un
femme
petit peu
qui
plus
pleure
que...
va dire « Ah, bon, okay.
C'est normal.
Or, c'est faux, en fait.
Or, c'est faux, oui. Donc, elle est juste plus connectée, un peu plus connectée à ses émotions.
Oui.
Donc, à son intuition.
Et d'ailleurs, c'est marrant que tu me dises ça, parce que je fais même attention à la manière dont je parle à mon fils qui a 5 ans. Et des fois, quand il pleure... On a tendance à dire aux petits garçons « Ne pleure pas, t'es pas une fille. »
Ouais.
Et moi, j'essaie de lui dire, mais non, mais tu es grand, tu peux exprimer, en fait, si tu n'es pas d'accord avec quelque chose ou si tu as mal, dis-le moi, essaie de me le dire avec des mots. Et j'essaie vraiment de faire attention à ça, ouais, et de ne pas lui dire...
T'es un homme, pleure pas.
Exactement.
Ouais, mais c'est tellement des injonctions qui sont rentrées dans nos têtes que c'est un peu...
Ça
peut partir tout seul.
C'est comme ça qu'on crée des ancrages.
Exactement. Et tout commence à l'éducation, donc c'est bien d'y penser, en fait. Ouais.
Exactement.
Comment est-ce que toi tu dépasses justement les moments difficiles dans l'entrepreneuriat, enfin si tu en as eu, est-ce que, comment tu les dépasses, comment justement en tant que coach?
Alors je pense qu'il y en a conseiller. Toujours, hein.
Oui, oui.
À ce jour j'ai pas rencontré d'entrepreneur qui me dit
tout va bien,
tout est facile, non, tout va bien, etc. Déjà je suis bien entourée, ça c'est la première chose. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou dans un projet sur long terme qui va être impactant émotionnellement, financièrement, c'est bien d'avoir le soutien de son entourage. Donc j'ai un chéri qui est là à toute épreuve et qui me dit tout le temps mais vas-y, mais lâche rien, etc. Donc dans les moments tout au début, quand je faisais mon site avant le Covid, etc., ça a été vraiment un atout. Ensuite, depuis que je suis toute petite, j'ai quand même cette capacité de résilience, cette capacité à surmonter en fait toutes les épreuves. J'ai la croyance aidante que je peux tout surmonter. Donc ça m'aide, même si j'ai peur. La peur, je la ressens, je peux avoir de l'appréhension en me disant, bah là, j'ai jamais travaillé avec tel type de groupe ou tel type de personne, j'ai l'appréhension avant d'y aller, mais je le fais quand même. Mmh. Et ça, c'est vraiment une force. La deuxième, c'est qu'en tant que personne, en tant que qui est formée au coaching, c'est que j'ai cette capacité à aller chercher des ressources.
Ouais.
Et ça, tout le monde l'a.
Ouais.
Tout le monde a toutes les ressources. Il faut juste savoir
aller
où est l'endroit, où est la ressource, le tiroir, ouvrir, etc.
D'accord. Ouais.
Et ça, c'est mon métier qui m'a permis, d'aller chercher les ressources plus rapidement, en fait, de savoir où elles sont.
Oui, tu as appris à savoir où elles sont et à aller les chercher au bon moment, en fait. Justement, quel conseil tu donnerais aux femmes ou hommes qui nous écoutent et qui traversent des moments difficiles professionnellement et personnellement?
Déjà, la première chose, c'est la gestion de ses émotions. Hein. Mmh. Vraiment se dire, être dans le moment présent et se dire, bah, qu'est-ce que je ressens là? Quel message m'envoie mon corps? Est-ce que je pars dans la bonne direction? Parce que des fois, quand on est submergé ou quand on est acculé dans une situation, des fois, on n'est pas dans la bonne direction.
Oui.
Et c'est ça. Moi, je reviendrai toujours à la connaissance et la conscience de soi. Si je sais qui je suis et je sais dans quelle direction je vais aller, et qu'après je me connecte à quelque chose de plus grand et j'ai la foi en mon projet, tout est possible.
Mmh.
Il y a aussi une autre chose, c'est que les obstacles, ils sont là pour nous apprendre quelque chose.
Oui, aussi, c'est vrai.
Des fois, c'est pour dévier la route, et puis des fois, c'est pour accumuler de l'expérience et ça permet de développer ses compétences.
Mmh. Oui, il faut les voir comme, ces épreuves, ces échecs, comme quelque chose qu'on capitalise, en fait, quelque part, dans l'expérience de la vie. Hein. Donc, ça nous aide aussi.
Oui, être à l'écoute de soi. Et puis après, on va dire aussi être indulgent, faire preuve de douceur avec soi-même. Parce que ce qui fait que quelqu'un est résilient et se surpasse dans l'adversité, c'est aussi cette capacité à être doux avec soi-même. Mais pas quand on est beau, quand on est fort, quand on réussit tout. C'est quand on se sent vulgairement comme une merde. Les jours où ça va pas, où on se trouve moche, où on se trouve pas compétent. Et c'est là, c'est ce jour-là, où il faut se regarder dans le miroir et te dire, ok, ben moi je t'aime, tu vas avoir du temps, et c'est ok de prendre du temps pour certaines choses, et c'est ok de pas réussir cet objectif-là dans ce délai-là. C'est ok. Et on va prendre le temps qu'il faut.
D'accord. Il faut prendre le temps pour soi.
Prendre le temps pour soi, mais aussi prendre le temps d'être bien avec soi-même.
Ouais.
La relation qu'on a avec soi-même et son dialogue interne aussi.
Il faut s'écouter.
S'écouter,
à l'écoute de soi, oui. On ne prend pas toujours le temps de le faire.
Et on ne prend pas le temps aussi d'être doux avec soi-même.
Ouais.
Ça, j'insiste vraiment sur ça, parce que le dialogue interne, il fait tout pour un entrepreneur.
C'est vrai. On prend pas, on ne le fait pas assez. J'ai vu que tu étais aussi la cofondatrice de French Sorority.
French Sorority, oui.
Sorority, oui, qui accompagne des entreprises et des organisations à mettre en valeur le potentiel féminin et à créer des liens entre les femmes. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, alors avec une autre coach qui était fiscaliste aussi avant, qu'on s'est rencontré à la fac, Aurélia Monaco, avec qui je monte des programmes en entreprise sur le management, la qualité de vie au travail, on a eu en fait un projet de cœur qu'on a voulu développer. c'est ce projet de sororité, en fait, comment on va développer la sororité en entreprise pour les entreprises qui, encore une fois, ont envie de faire quelque chose pour développer les compétences des femmes et peut-être rattraper le retard organisationnel dans leur entreprise, mais qui ne savent pas comment faire. Du coup, on crée des programmes sur mesure pour les entreprises pour créer du lien entre les femmes. Et ça peut être des ateliers sur la parentalité, ça peut être sur le plafond de verre, ça peut être sur la prise de parole en public, ça peut être la mise en place de mentoring de femmes qui sont voilà, top exécutives et puis finalement qui n'ont jamais parlé à la collaboratrice qui n'est pas dans le même service. Et, voilà. Et ça peut être très inspirant justement de créer ce lien entre femmes en entreprise. Et c'est ce qui va participer en fait à l'évolution des mentalités. Mais dans ce programme, il y a aussi un lien à faire avec les hommes en entreprise. C'est comment je vais aller parler des préjugés et prendre conscience de tous les biais en fait, qui existent chez les femmes, mais aussi chez les hommes.
Tout à fait, oui.
Parce qu'on ne peut pas évoluer, on va dire, élever la femme dans la société et en entreprise sans l'aide des hommes.
Sans les hommes, oui,
tout à fait. Ce n'est pas un combat, en fait. C'est vraiment ce... une cohésion en interne et puis un partnership.
Ah oui, je suis totalement d'accord. C'est vrai que sans les hommes, on ne peut pas avancer sur tout ce qui est féminisme. Donc sans eux, ça ne marche pas en fait. Ce n'est pas un combat l'un contre l'autre, mais c'est plus travailler main dans la main pour faire évoluer certaines choses et certaines mentalités.
Oui, et puis prendre aussi en compte qu'on ne part pas... On ne part pas avec la même base dans le sens où il y a une charge mentale qui est réelle pour les femmes. Il y a aussi une différence au niveau des salaires qui est réelle.
Qui est réelle, oui.
Donc on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. Et il y a cette sorte de, en tout cas avec Aurélia, ce qu'on a pu constater, cette sorte de fraternité naturelle chez les hommes.
Oui.
Si vous mettez des hommes dans une pièce, voilà, ils se connaissent pas. Pour un sujet particulier, il y a des femmes, les hommes vont naturellement se regrouper et parler de sujets qui les intéressent et avoir ce côté fraternel. Chez les femmes, souvent, c'est moins évident. Parce qu'il y a cette sorte aussi de défiance, il y a peu d'élus. Ça, c'est une croyance limitante. Il y a peu d'élus, donc elle va prendre ma place. Voilà.
On se voit un peu l'une contre l'autre au lieu de...
Ça peut être
le cas. Ça peut être le cas. Et parfois, on se réunit, en tout cas. En tout cas, dans le paysage entrepreneurial, j'avais plus cette impression qu'il n'y a pas beaucoup en entreprise, justement, à l'opposé de l'entreprise, qu'en entrepreneuriat, on s'entraide beaucoup plus. Donc, il y a cette idée de travailler ensemble pour réussir ensemble, parce qu'on est toutes, on va dire, au même niveau et qu'on a envie de s'entraider. Et parfois, en entreprise, c'est un peu différent, où il y a peut-être plus la compétition, on va dire.
Oui, c'est vrai, c'est très juste. Après, on est dans une période de transition, le monde est en train de changer et je pense que les femmes ressentent ce besoin de se réunir, que ce soit au niveau pro et perso. Et d'ailleurs, si tu remontes un peu plus loin ou même dans d'autres pays, dans les cultures ancestrales, c'est monnaie courante en fait.
Tout à fait, oui.
Les femmes se regroupent pour parler du passage de la jeune fille à la femme qui va se marier, de comment on gère sa maison, de comment on gère sa carrière, voilà, tout est objet à se réunir et à travailler sur cet empowerment, empuissancement en fait. Et c'est que peut-être qu'en Occident on l'a un peu oublié, mais il y a ce retour à ça, il y a beaucoup de cercles de femmes qui commencent à être créés, que ce soit entrepreneur ou pas. Donc il y a cet éveil et il y a ce retour. Et j'ai envie de te dire fort heureusement, parce qu'avec avec les derniers événements qui viennent de se passer là, au niveau mondial, il y a quand même un recul sur les droits de la femme qui est inquiétant.
Oui.
Moi, quand je vois la décision en fait, des États-Unis d'interdire l'avortement, je me dis, mais Simone Veil doit être en train de se retourner dans sa tombe. On va interdire l'avortement thérapeutique. Ou tout court, en fait. Toute femme a le droit de disposer de son corps, en fait. Et c'est...
Oui, c'est un retour en arrière, quoi.
C'est un retour en arrière. Dans une société qui avance, en fait, sur énormément de choses. On n'a jamais eu autant de moyens de technologie, on n'a jamais eu autant d'argent. Il y a des gens qui ont des milliards sur la planète, et il y a des gens qui crèvent de faim. Et donc, ça te ramène à quelque chose. Mon premier point dans mon accompagnement, la conscience. Mmh. Aujourd'hui, on est dans une crise des consciences. Les moyens, on les a. Mais par contre, ce qui fait qu'on va interdire l'avortement aux États-Unis, c'est quoi ? C'est la conscience.
Oui. Oui.
Et donc, le salut de l'humanité, il est là. Il est dans comment j'élève mon niveau de conscience, comment je prends conscience de qui je suis. Et c'est pour ça que quand tu me poses la question au niveau professionnel, je te réponds toujours la même chose, c'est quel humain j'ai envie d'être.
Oui, avant tout, il faut commencer par là, par la source, quoi. Si on ne commence pas par ça, on ne peut pas avancer.
Exactement.
Ouais. Quel humain on a envie d'être Et si on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres, forcément. Donc,
si tu as un humain, en fait, si
tu
as un humain au sens premier du terme, l'humain, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est amour, qui est lumière. Mm-hmm. Donc là, si tu es forcément aligné avec ça, bah, tu es un bon professionnel. Dans ta manière de faire du business, tu as des valeurs qui correspondent à ça. Dans ta manière de t'adresser à tes employés et de les former, t'as forcément une vision qui est une vision de partage, une vision de cohésion, une vision. Et tu sors de cette vision de compétition, de dualité, de peur, de manquer. Puisque tu te dis, ben moi, j'appartiens, je suis une partie intégrante de quelque chose qui est plus grand, d'un groupe qui est l'humanité. Mais en fait, je suis là au niveau individuel, mais j'interagis aussi avec les autres et je leur apporte quelque chose. Et tout le monde a quelque chose à apporter. Et t'imagines, si tout le monde pense à ce qui se passe, moi, c'est.
Ouais, c'est. Ça serait grandiose, quoi. Chacun apporte à l'autre, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça. Je pense, oui, c'est ça. On a tous un rôle à jouer. C'est apporter chacun sa pierre à l'édifice, comme on dit, pour que les choses ils avancent dans le bon sens pour tout le monde.
Je suis confiante. Hein, on va complètement vers ça parce que, en fait, aujourd'hui, il y a eu le chaos qui a été, je pense, le point culminant, la pandémie. Et comme tu le dis, les gens ont commencé à se poser des questions. Donc cette quête de sens, elle est vraie, encore plus vraie aujourd'hui. Et l'ancien système, qui est un système de compétition, de peur, de je joue sur les peurs des gens, allez-vous faire vacciner ou non, ou tu vas perdre ton travail ou non, ça ne marche plus.
Oui.
Les gens ne marchent plus. Les gens se disent, non mais en fait, moi, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de faire autre chose.
Exactement.
Donc on va vers le système dont je te parle, un système qui est plus humaniste. Et en fait, c'est tous ces changements individuels qui vont créer un impact collectif. Donc ça arrive. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup en plus de cercles de femmes, de gens qui se regroupent de manière, on va dire, un peu plus informelle.
Oui.
Tu vois, on retourne à la source.
C'est ça, c'est un retour à la source. Avant. Oui, où quand les femmes se réunissaient entre elles, justement, pour parler, pour faire évoluer, pour faire bouger les choses, elles ont joué un rôle très important, surtout sur certains continents où on voit que beaucoup de choses reposent sur leurs épaules. Hein.
Exactement.
Et cette quête de sens, oui, effectivement, pendant le confinement, on l'a beaucoup, beaucoup entendu. Enfin...
D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que dans les conflits armés, quand il y avait des femmes qui étaient à la tête des gouvernements et dans le conseil, il y avait en fait beaucoup moins de dégâts humains en fait, qui étaient faits. Parce qu'on a une autre manière d'aborder les choses qui n'est pas forcément dans la force directe, en fait, dans le combat, dans l'opposition. Mais plus à aller vers... je dirais pas une vision plus humaniste, mais plus connectée à comment je fais pour créer de la cohésion.
Oui, c'est un peu exactement la force qu'on retrouve un peu chez les femmes. Et effectivement, donc c'est bien beau de voir que on retourne à la source en ce moment.
Oui, on avance.
On avance. Ouais. Merci beaucoup. Je vais te poser les dernières questions avant de terminer l'entretien. C'est quoi tes prochains défis pour l'année 2022 d'ici la fin de l'année ? Il reste encore la moitié.
Alors d'ici la fin de l'année 2022, c'est de continuer à déléguer. Pour moi, l'année 2022, ça a été une grosse année où j'ai vraiment délégué. J'ai pris une assistante à qui j'ai délégué des tâches et ça a été difficile quand on fait toujours tout soi-même. C'est continuer à déléguer aussi dans mon équipe de consultants, parce que j'ai une équipe de consultants avec lesquels je travaille en entreprise, qui vont faire du coaching, avec qui je vais monter des programmes de formation et leur laisser beaucoup plus de place en fait dans ça pour pouvoir me mettre en recul et moi être plus dans un espace créatif et moins dans le faire. Donc je dirais que c'est vraiment déléguer
justement pour toujours retrouver ce sens dans ce que tu fais au quotidien,
pour
qui est
prendre
important
de la
et prendre
aussi.
De la hauteur ouais.
Et comme je te disais tout à l'heure, pour rester dans sa zone d'excellence.
Oui,
il y a beaucoup de choses qu'on peut bien faire, mais qu'est-ce qu'on fait avec plaisir et qu'est-ce qui fait vibrer notre âme.
C'est voilà. Ça. Il faut se poser la question et, et savoir dire non, ça, c'est pas pour moi. J'ai pas envie de faire ça et je veux faire ça, je le fais. Quoi. Au oui. moins, c'est vrai qu'on va exceller dans quelque chose qu'on a envie de faire. Forcément.
Et ça fait, beaucoup, ça fait gagner beaucoup de temps et d'argent aussi.
Exactement, oui.
Parce que finalement, quand je m'enlève cette charge mentale et que je délègue à quelqu'un d'autre et qu'il le fait aussi mieux que moi, ça c'est parce que ça c'est vrai aussi, et qu'il le fait plus vite, et ben moi je peux me concentrer sur ma zone d'excellence, mais aussi sur mon bien-être, prendre soin de moi. Donc voilà mon défi pour l'année
pour
2022.
2022.
Et j'en ai un deuxième, c'est continuer à travailler sur l'alignement de ce 10% des clients qui viennent et qui ne sont pas forcément alignés avec mes valeurs. Et, continuer à les identifier et peut-être à refuser des projets, c'est ce que j'ai fait en 2022. Et pas avoir peur de ça, ça c'était mon grand défi.
Oui.
De me dire, c'est ok, je suis pas alignée avec ce projet, je le refuse.
Oui, à l'écoute de son intuition. Quoi.
Oui, exactement.
Sinon, je n'y vais pas. Exactement. Et justement, quel conseil tu donnerais à une femme qui nous écoute, qui est entrepreneur, qui se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'elle est en quête de sens, justement?
Moi, je dirais que de ne pas oublier que Dieu nous a tout donné. Et ce qu'on a à l'instant T, c'est exactement ce dont on a besoin pour commencer.
Ouais.
Et l'écueil des entrepreneurs, des fois, c'est de se dire « Ah, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de connexion, j'ai pas assez de ça-là » parce qu'ils pensent à un truc qui va se passer dans 10 ans ou dans 5 ans. Non, pense juste à la prochaine étape. Et la foi que Dieu t'a donné tout au moment T pour aller à la prochaine étape.
Ouais, c'est step by step, quoi.
Step by step. Ouais. Step by step. Et tu as déjà toutes les ressources là pour la prochaine étape.
Ouais. Avancer étape par étape et pas
exactement.
Aller chercher, penser à dans 5 ans, 10 ans. Quoi.
Exactement.
De toute façon, à mon projet, ça se monte par petits bouts, quoi. On n'arrive jamais au final d'un seul coup. Donc, c'est bien ce qu'il faut se mettre dans la tête. Hein.
C'est clair. Et puis, après, un projet, ça évolue aussi.
Aussi, un peu, oui.
Moi, mon projet de départ qui était... d'accompagner les managers, il est toujours là, mais je n'avais pas du tout identifié cette dimension spirituelle. Et puis il y a d'autres choses qui sont invitées aussi, hein, que j'ai pas calculées, mais qui ont été amenées par mes clients et qui ont résonné très fort. Et je me suis dit, waouh, je ne peux pas nier tout ça dans mon activité.
Oui, ouais, bah oui, ça se fait avec les autres, en fait, un projet. Hein. Même si
exactement.
On est seul au départ, il se monte, il se crée, il se construit avec d'autres, en fait.
Et surtout quand on est dans l'accompagnement, je trouve, parce qu'on apporte quelque chose à nos clients, mais ils nous apportent aussi beaucoup de choses au niveau humain. Il y a énormément de choses qui se font, c'est un échange en fait. C'est pas
très
juste...
enrichissant ça.
Exactement. Et c'est après à nous d'être assez alignés, d'être assez connectés à son corps, à ses émotions, à son intuition, pour se dire « Ah, bah en fait, là, il y a peut-être un message dans cette... dans cette activité, dans notre échange, qu'est-ce qui va se créer.
Est-ce que tu as une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire?
Oh, il y en a plusieurs. Bah, je vais choisir la France, parce que souvent on donne des entrepreneurs étrangers. Il y a Brigitte Houssou, qui a créé avec ses frères la Villa Massaï, je ne sais pas si tu connais, qui a plusieurs établissements dans la restauration, qui était elle cadre en entreprise et qui après s'est lancée dans l'entrepreneuriat avec ses frères et qui est une femme hyper puissante, qui pour moi représente le leadership, qui est mère de famille et qui est très dans le partage aussi, dans la transmission, donc je trouve ça très très cool. En plus, elle fait partie de la communauté. Et il y a la créatrice des Secrets de Loli, qui elle aussi est une super boss girl qui là vient d'ouvrir sa société et de faire une levée de fonds et qui s'ouvre à l'international et qui a commencé en créant des produits dans sa cuisine et qui maintenant est dans tous les shops et qui, et qui va conquérir les États-Unis. Et ce qui est inspirant, c'est que ce sont des mères de famille, des femmes noires qui sont parties de rien en fait.
Ouais, voilà. Ça, c'est très inspirant. Quoi.
C'est très, très inspirant.
Ouais. On peut partir de rien et réussir aussi. Oui. Voilà. Si on est aligné, certainement avec soi-même.
Et ce sont aussi des femmes qui sont dans le partage,
ouais.
Qui partagent beaucoup, qui sont dans la transmission. Et ça, je trouve ça très cool parce que ça va dans cette idée de sororité.
Ouais. Ouais. C'est ça. C'est pas être tout seul dans son coin, mais vraiment le partage. Déjà, parler de son idée, parler avec les autres et partager aussi ses connaissances.
Oui.
Ouais. C'est super important. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne?
J'en ai plusieurs, mais il y en a une qui me vient souvent, c'est un verset de la Bible, Matthieu 7:7, qui dit Demande et on te donnera, frappe à la porte et on t'ouvrira, et cherche et tu trouveras. Et j'aime bien cette maxime parce que, en fait, chacun doit faire sa part.
Oui.
C'est que si tu demandes, on va te donner, si tu frappes, on va t'ouvrir, et si tu cherches, tu vas trouver. Mais par contre, si tu ne fais pas ta part, rien ne va se passer. Et donc, c'est un peu ce côté, je fais ma part, et le reste, c'est Dieu qui me donnera. C'est Dieu qui donne.
Oui, c'est Dieu qui donne, donc... Donc il faut accepter quand on n'a pas sur le moment, il faut l'accepter aussi.
Oui, il faut se demander aussi, est-ce qu'on a fait notre part ?
Exactement. Ouais.
Est-ce qu'on a fait notre part ?
Qu'est-ce qu'on...
Ouais. Il y a un côté très responsabilisant.
C'est ça. Donc chacun doit faire sa part et mettre sa pierre à l'édifice.
Quoi, oui.
Pour que ça puisse avancer et bouger.
Et il y a aussi ce côté en fait que j'aime dans ce verset, c'est que waouh, tout est accessible.
C'est ça.
Si je frappe, on m'ouvre. C'est génial.
C'est ça,
il y a un côté, tout est là. J'ai juste à tendre le bras.
Mais c'est génial parce que ce que tu dis me rappelle justement une femme que j'ai interviewée juste hier.
Ah oui?
Qui me disait, je suis nulle pour tout ce qui est gestion de stock. Je suis allée chercher les meilleures sur le sujet. Elle a frappé à la porte et on lui a répondu.
Exactement. Exactement.
Et elle a été accompagnée par une grosse spécialiste sur le sujet, du coup elle a pu avancer. Donc c'est tout à fait ça, c'est ce que tu dis, il faut frapper, tu trouves en fait. Est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu aimerais partager avec nous ?
Ah, un livre et un podcast. Le livre, c'est un livre moi qui m'a bouleversée, c'est Stéphane Hercovey, Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Ouais. Et c'est un livre qu'on peut lire plusieurs fois et qui change vraiment notre perception sur... comment je peux sortir de cet enfermement où j'ai l'impression de ne pas avoir d'impact sur le monde et comment je peux développer mon influence et développer mes capacités. Donc c'est un livre que je conseille à tout le monde et de le lire plusieurs fois. Ça a changé votre perception. Voilà. Et moi-même, je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai fiché, je l'ai... voilà. L'autre podcast qui est un peu plus, on va dire, moins dans le pragmatisme et plus dans le spirituel, c'est Spiritualita Podcast d'Amel Zadi. Qui était journaliste chez France Inter, quelque chose comme ça, et qui a monté son podcast spirituel et qui va à la rencontre de tous les thérapeutes, tous les accompagnements spirituels qui peuvent exister en France. C'est un podcast qui est hyper riche et qui ouvre l'esprit, qui fait bouger notre âme. Donc je trouve que c'est intéressant, qu'on soit d'accord ou pas, en tout cas ça ouvre des portes.
D'accord, intéressant, je vais écouter. Bah merci beaucoup Edmé.
Merci.
Si on veut t'écrire, ça se passe où ?
Sur mon site internet, dans la rubrique contact.
D'accord.
Voilà.
Bah merci.
Tout simplement,
beaucoup.
Ou sur LinkedIn ou sur Instagram. Voilà. Frappez à la porte et j'ouvrirai.
Exactement.
Merci.
Bah, je te laisse le mot de la fin.
Ah, le mot de la fin, j'ai envie de dire, je me sens en joie à l'idée de voir toutes ces femmes se réunir et de participer à des projets comme le tien. Voilà, j'ai l'impression que là, c'est en train de monter et qu'on va toutes se réunir. Donc, je trouve ça tellement cool.
Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je trouve ça cool aussi qu'on se réunisse toutes. Merci.
Merci.
Merci d'avoir écouté cette interview. Si celle-ci vous a plu, rendez-moi un petit service. Cela ne vous prendra que quelques secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspironsleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.